Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h à Kinshasa, 19h à Goma. Bienvenue dans la grande édition du journal sur Radio Okapi, la radio de la paix. Je suis Gisèle Cage et pendant ces prochaines minutes, nous faisons le point complet de l'actualité nationale et internationale. Voici le principal titre. Session parlementaire, l'heure de resserrer le rang. Sécurité nationale, gouvernance et cohésion. Le président de deux chambres appelle à une mobilisation sans faille pour élever le défi urgent du pays. Kinshasa bloqué, journée de galère généralisée, ville paralysée, piétons en masse, tarifs qui flambent et chauffeurs à bout, de la marche forcée des Kinois aux cris de colère des usagers jusqu'au ras-le-bol de conducteurs face aux tracasseries excessives. Ces dossiers en trois volets plongent au cœur d'un lundi de grève qui a mis tout le système de transport à genoux. Kananga, verdict coup de poing dans les affaires de viol sur mineurs, 10 condamnations sur 13 accusés à l'issue des audiences foraines de Luisa, un procès clé rendu possible grâce au travail d'Amour Plus qui a accompagné les victimes et monté les dossiers. La coordonnatrice générale Merveille Sanguilola est notre invitée. À Kinshasa, le Parlement a fait sa rentrée politique ce lundi avec l'ouverture de la session ordinaire de mars. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, le président de deux chambres ont lancé un message fort. Unité nationale et mobilisation générale pour affronter le défi sécuritaire, politique et sociaux qui s'écoule à RDC. Climat, enjeux et attentes autour de cette nouvelle session. Les éclairages de Grâce Amzati.
Sur le plan sécuritaire, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bogi, cite l'occupation de certains territoires du Nord Kivu et du Sud Kivu par la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda, la poursuite des attaques des rebelles ADF dans les territoires de Beni et Lubero au Nord Kivu ainsi que dans une partie de l'Ituri. Il mentionne également l'activisme de la milice Mobondo dans l'espace Bandundu et la montée de la criminalité urbaine à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. S'agissant des accords récemment conclus par le gouvernement, notamment l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda ainsi que l'accord stratégique signé entre la RDC et les États-Unis, Aimé Bogi Sangara assure que l'Assemblée nationale examinera ces textes dans l'intérêt supérieur de la nation, tout en réaffirmant l'accompagnement de la Chambre basse dans leur mise en œuvre. Concernant la perspective d'un dialogue national, il souligne la nécessité de l'envisager dans le respect du cadre institutionnel et dans l'intérêt du pays. De son côté, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, rappelle que la Chambre haute reste engagée à adopter les lois nécessaires et à exercer pleinement sa mission de contrôle de l'action gouvernementale afin de contribuer à la stabilité des institutions et à la construction d'une société plus juste. Depuis le Palais du Peuple, Grâce Amzati, Radio Okapi.
Et pendant que le Parlement place la sécurité au cœur de son agenda à l'est du pays, la réalité du terrain rappelle à quel point l'urgence est grande. À Goma, les habitants de Mugunga et Lac Vert espèrent enfin une nuit calme après celle de dimanche à lundi, marquée par des tirs nourris et des détonations à l'arme lourde. Plusieurs résidents décrivent une nuit qui ressemblait à un véritable front de guerre. Alors qu'ils regagnent leur domicile ce soir, nombreux sont ceux qui espèrent voir leurs enfants dormir en paix, loin de bruit des combats. On développe tout cela avec Lievin Mbuinga.
Alors qu'il s'apprêtait à fermer sa boutique vers 17h30 près du rond-point CCLK, un habitant confie qu'il espère la retrouver intacte ce mardi. Il a eu la chance de retrouver ce matin sa boutique telle qu'il l'avait laissée la veille, une chance que d'autres commerçants n'ont pas eue. Leurs marchandises ont été pillées par des hommes armés dans la nuit de dimanche à lundi. Pour la plupart, ce sont des vivres et des boissons qui ont été emportés. De petits commerçants près du rond-point CCLK disent regretter ces actes de pillage qui découragent une population qui tente de tenir malgré un contexte économique difficile. Lundi, les activités ont tourné au ralenti à cause de la psychose due au tir de la veille et à l'aube d'une nouvelle nuit, la peur se lit sur tous les visages. Au-delà du bilan matériel, c'est la santé mentale d'une population déjà meurtrie par des années d'insécurité qui est en jeu. En écoutant le bruit de ces armes lourdes et de ces tirs nourris, C'est comme si je revivais les heures sombres de guerre de l'année passée, nous a confié un habitant. Pour lui, le plus dur n'est pas seulement de reconstituer les commerces pillés, mais de soigner ce traumatisme de guerre qui, cette nuit encore, a refait surface.
En Ituri, l'action des organisations féminines change la donne. Leurs projets touchent directement des milliers d'habitants. Résolution des conflits, réduction de violences armées et lutte contre les violences basées sur le genre. Un impact salué par la défenseure globale des Nations Unies pour la paix dimanche dernier lors d'une réunion à Bounia. Dans cet échange, les organisations ont aussi plaidé pour un point crucial, plus de financement pour répondre aux besoins urgents des communautés, en particulier les femmes et les enfants, toujours en première ligne. Cap maintenant sur Bounia, où nous attend Isaac Remoyope pour les détails.
Les organisations féminines, dont la Sofepadi et les femmes médiatrices pour la paix, interviennent dans plusieurs domaines, notamment la résolution des conflits armés et communautaires, ainsi que la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Leur impact est jugé significatif, notamment dans la pacification de la province, le renforcement de la cohésion sociale, la réduction des violences basées sur les genres et l'autonomisation des femmes. La défenseure globale des Nations Unies pour la paix, Myriam Boukarassan, a exprimé sa satisfaction quant au rôle joué par les femmes dans la consolidation de la paix.
Ils ont déjà beaucoup d'impact. D'abord, une jeune femme, l'hôpital de Sofepadi à Bounia, qui a survécu à des violences, qui est elle-même devenue une infirmière et qui aide les autres. Ça montre vraiment la résilience.
Cependant, parmi les défis évoqués par ces organisations, figure le manque de financement pour pérenniser leurs actions. Elles ont demandé à leurs hôtes de porter leur plaidoyer auprès des instances internationales, l'une des leaders féminins.
Les femmes ont autant réalisé sur la question des paix et cette opportunité, c'est pour relayer leurs avis, leurs réalisations au niveau international.
La défenseure globale des Nations Unies pour la paix, Myriam Boukarassan, a clôturé ce lundi sa mission de 2 jours dans la province de l'Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Kinshasa au ralenti, capitale sous tension dès les premières heures. La grève des chauffeurs n'a pas seulement freiné la ville, elle a cassé son rythme net. Avec taxi et taxi-bus à l'arrêt, Kinshasa s'est transformé en couloir géant des piétons contraints de marcher parfois des kilomètres pour rejoindre leur travail ou l'université. Fatigue, retard, les Kinois vivent une matinée sous pression. Pour prendre la mesure de cette paralysie, des chauffeurs de Binza Delvo ont réagi au micro des Tushi. Iboula, écoutez.
Avant, c'était le problème des documents. Nous avons essayé d'acheter quelques-uns. Ils sont revenus encore une fois pour revendiquer le contrôle de véhicules. Ils ne nous laissent pas tranquilles. C'est pitoyable. Ils veulent que nous achetions tous les documents du coup. Il fallait mettre un système de paiement échelonné permettant d'acheter les documents mensuellement pour faire le contrôle après le délai. Il n'y a aucun problème avec les barrières. Il faut enlever les brigands qu'ils ont mis sur la route pour éviter les accidents.
Et comme si la pénurie ne suffisait pas, les rares taxis, taxibus et motos encore en circulation ont fait flamber le prix. Tarifs doublés, parfois même triplés, un véritable coup de massue pour les usagers déjà éprouvés. Résultat, colère, frustration, incompréhension dans une ville qui se sent abandonnée sur le trottoir. Direction maintenant le rond-point Molar à Bandalungwa, où plusieurs Kinois ont raconté leur matinée chaotique. Voici leur réaction dans ce Vox Pop.
Moi, je suis ici depuis 7 heures, il n'y a rien. Et les autres qui viennent là sont en train de majorer les transports à 3000 zandou, 4000 inhabituels, en fonction de quoi, en raison de quoi. C'est ça, la responsabilité est divisée, et comme sur l'État, et sur aussi les individus, les inciviques, les Congolais.
Les transporteurs qui mettent les prix des transports quand ils veulent. Donc, ils ne sont même pas contrôlés. Au moment où on a un ministère provincial des transports, on a un ministère national des transports, mais les transporteurs sont libres, et ils vivent comme des électrons libres, ils font n'importe quoi, ils mettent les prix quand ils veulent, tout ça, ça nous tracasse.
Les autorités doivent voir, doivent prendre les sociales des gens, qu'on nous amène les camions Kamaz ou bien que l'État achète ses bus à lui pour casser le prix particulier. C'est l'unique solution, on ne peut rien faire.
Et après ce que vous venez d'entendre sur le terrain, retour maintenant aux raisons de cette paralysie générale. Car si Kinshasa marche aujourd'hui, c'est parce que les chauffeurs, eux, ont décidé de s'arrêter. Depuis ce matin, la capitale est prise au piège. Aux travailleurs bloqués, étudiants à pied, arrêts bondés, taxis introuvables. Au cœur de la crise, un arrêt de service spontané lancé par des conducteurs des taxis et taxibus pour dénoncer ce qu'ils qualifient de tracasserie excessive de la part des agents de régulation routière. Selon eux, les alertes n'ont pas manqué ce dernier jour. Abus répétés sur le terrain, comportements jugés inciviques et une avalanche d'exigences jugées impossibles à suivre. Permis, carte professionnelle, frais multiples, plus de 10 obligations imposées aux chauffeurs, disent-ils, sans concertation et sans réponse des autorités. Résultat, les chauffeurs ont coupé le moteur dans l'attente de conclusion des pourparlers engagés avec le gouvernement. Le président de l'association des chauffeurs, Bienvenue Kakule Kimbula, s'en explique au micro de Benjamin Mudumbi.
Par rapport à ces piquetés, il y a eu des alertes tout à fait déjà une semaine où les chauffeurs étaient en train de plaimenter par rapport au comportement de cette équipe qui a été déployée sur terrain, les habits qu'ils sont en train de connaître sur terrain vis-à-vis des chauffeurs, mais aussi l'activisme qui caractérise et pas qu'est agent qualifié. Et c'est tout là que les chauffeurs se disent, mais non, le président, vous devrez parler aux autorités de cette situation. Et nous aussi, nous avions prévu nos autorités compétentes. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas encore de réaction. Et puis, il n'y a eu aucune déclaration du mouvement de grève, mais les chauffeurs eux-mêmes ont voulu associer quand même un arrêt des activités à un petit temps. Donc, ce tour du chauffeur, il faut créer des coûts de service autour du chauffeur. On va imposer, encore je ne sais pas, si c'est au de carte, vous avez votre permis de conduire, on va encore vous imposer que vous avez votre carte professionnelle. Donc, il y a beaucoup plus de 10 éléments qu'on est en tête de poser pour faire.
Dans les territoires d'Ubuntu, la lutte contre les produits dangereux passe à la vitesse supérieure. Ce week-end, au village Ouma, 92 km de Kisangani sur l'axe Ituri, une énorme cargaison de médicaments et de marchandises périmées a été envoyée au feu. Une opération coup de balai menée dans le cadre de la campagne aux zéro produits périmés avec un objectif clair, nettoyer les marchés et protéger les consommateurs. Le papier de Jacques Moukonkole, rendu par Kakia Kewa.
C'est un brasier symbolique qui s'est élevé samedi dernier dans les ciels du village Ouma, situé dans les secteurs de Bakumu Kilinga. Sous la supervision du service territorial de l'environnement et économie du climat, des stocks relativement importants de produits pharmaceutiques et des marchandises diverses dont la date de péremption était largement dépassée ont été incinérés. Cette intervention ne relève pas du hasard. Elle s'inscrit dans une vaste campagne de lutte contre la commercialisation des produits dangereux pour la santé publique. Pour les superviseurs du service de l'environnement, l'objectif est clair. Protéger la population contre les risques sanitaires liés à la consommation des produits contaminés. Pour sa part, l'administrateur du territoire, Verdo Yamulamba, tape du poing sur la table. Il rappelle aux opérateurs économiques leur obligation de respecter scrupuleusement les dates de péremption, mais aussi les conditions de conservation des marchandises. Pour l'autorité territoriale, la santé de la population ne doit en aucun cas être sacrifiée sur l'autel des profits. Que les commerçants véreux se les tiennent pour dit. Le secteur de Bakumu Kilinga n'était qu'une première étape. Verdo Yamulamba a d'ores et déjà annoncé que cette opération d'assainissement va s'étendre très prochainement à d'autres localités de sa juridiction.
En RDC, l'Union pour la défense des consommateurs hausse le ton à l'occasion de la journée mondiale de droits des consommateurs célébrée chaque 15 mars. L'UDECOM appelle à une vigilance accrue face à la présence de produits dangereux, contrefaits ou périmés qui circulent encore sur nos marchés. Sous le thème des produits sûrs, des consommateurs confiants, cette édition insiste sur un enjeu central. Sécuriser ce que le public achète et consomme au quotidien. Pour les détails, Nassian Tambo.
Dans un communiqué de presse publié ce dimanche, l'UDECOM affirme que la présence sur les marchés de produits non conformes représente un risque réel pour la santé publique et pour les intérêts des consommateurs. L'organisation rappelle que la protection des consommateurs passe non seulement par le respect strict des normes de qualité, mais aussi par une meilleure information du public. Elle encourage les consommateurs à adopter des réflexes simples afin de réduire les risques. Parmi ces recommandations, recommandations. Vérifier systématiquement la date de péremption, contrôler l'origine des produits, signaler tout produit suspect aux autorités compétentes. À travers cette journée, l'Union pour la défense des consommateurs souligne qu'un consommateur informé reste la première ligne de défense contre les abus et les produits dangereux. La Journée mondiale des droits des consommateurs constitue ainsi une occasion de renforcer la sensibilisation et de promouvoir une culture des responsabilités partagées entre les autorités, les opérateurs économiques et les consommateurs en République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
Mali, Mauritanie, l'affaire de deux soldats maliens relance la crispation entre Bamako et Nouakchott. Ce week-end, les forces armées maliennes ont affirmé que deux de leurs militaires enlevés par des groupes terroristes avaient réussi à s'exfiltrer depuis un camp de réfugiés en Mauritanie. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Ce lundi matin, Nouakchott parle de stupéfaction et d'indignation. Le ministère mauritanien des Affaires étrangères dénonce des accusations infondées. Selon l'état-major malien, les faits remontent à la nuit du 13 au 14 mars. Deux soldats kidnappés le 9 octobre 2025, alors qu'ils étaient en permission, auraient profité du chaos pour s'échapper, aidés indirectement par les opérations menées par Bamako près de la frontière et dans la forêt du Ouagadou. La Mauritanie, elle, ne laisse rien passer. Elle cite même le camp de Mbera, au sud-est du pays, à 50 km de la frontière malienne. Un site supervisé par le HCR qui accueille près des 160 000 réfugiés. Une manière de répondre point par point alors que Bamako, de son côté, n'a donné aucun nom de camp.
L'invité.
À Kananga, les audiences foraines consacrées au viol sur mineurs dans les territoires de Luisa ont livré leur verdict. Clôturées le 27 février, elles ont abouti à une décision forte. Sur 13 accusés, 10 ont été reconnus coupables et condamnés par le tribunal de grande instance. Une avancée donc rendue possible grâce au travail de terrain de l'ONG Amour Plus qui a constitué le dossier, accompagné les victimes et assuré leur orientation vers une prise en charge juridique complète. Ce soir, pour comprendre les enjeux de cette procédure et le combat mené aux côtés de survivantes, nous recevons Merveille Sangilola, coordonnatrice générale d'Amour Plus. Elle répond aux questions de André Katende Ngalamoulumé.
Merveille Sangilola, bonjour.
Bonjour André et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent.
Amour Plus, votre ONG, a facilité l'arrestation des 13 personnes accusées des viols sur mineurs. Ces 13 personnes qui ont été jugées à la prison centrale de Kananga et parmi ces personnes, 10 condamnées. Comment est-ce que l'ONG Amour Plus a réussi à signaler ces cas?
J'aimerais commencer par une phrase qui dit « La justice élève une nation ». Il fallait faire en sorte que les victimes ou les survivantes puissent trouver justice. Parce que vous savez, peu importe les actions de prévention que nous mettons en œuvre, des réinsertions socio-professionnelles, appui psychosocial, si les victimes ne trouvent pas justice, elles vont se décourager et on aura moins de cas de signalement de violences sexuelles. Alors, tout a commencé par notre collaboration avec les différents acteurs, notamment les bureaux centrales de la zone de santé de Luisa, qui a été pour beaucoup dans l'identification de victimes de violences sexuelles qui ont été prises en charge au niveau des structures sanitaires à Luisa. Nous avons également travaillé avec le parquet secondaire, créé le tribunal de paix de Luisa, qui avait également des cas déjà identifiés, des bourreaux qui étaient en détention. Nous avons travaillé avec la police de protection de l'enfant de Luisa et le tribunal des grandes instances de Chimbulu.
Quelle est votre réaction face à ces sanctions?
Nous sommes très heureux aujourd'hui que sur les 13 bourreaux, 10 ont été condamnés, soit 76%, ce qui constitue un grand pas franchi dans la justice. On espère juste que ces bourreaux vont vraiment purger leur peine comme cela a été prononcé. Parce que vous savez, pour une survivante de violences sexuelles, le fait de savoir que son bourreau a été condamné et que son bourreau est en train de purger une peine en prison, c'est un soulagement énorme.
Les condamnations des bourreaux, qu'est-ce que ça représente dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans la communauté de Luisa?
Vous savez, la condamnation de ces 10 bourreaux représente un grand espoir, un espoir de justice pour les territoires de Luisa dans toute la communauté. Mais c'est aussi un grand pas dans la lutte contre les violences sexuelles au Kasaï central. Parce que ça fait des années que nous sommes dans la lutte, plus de 5 ans. Mais la justice a toujours fait défaut. Les victimes nous disent toujours, vous nous sensibilisez, on vient dénoncer, mais on n'a jamais trouvé justice, surtout dans les territoires des Luisa. Ça va décourager d'autres bourreaux parce qu'ils savent que, attention, la justice fait maintenant son travail. C'est vrai que les moyens sont limités, mais on va continuer de mobiliser des ressources pour appuyer la justice parce que c'est leur tâche. Aujourd'hui, le fait que 10 bourreaux soient condamnés, je vous assure, c'est un pas de géant dans la lutte contre les violences sexuelles et les mariages d'enfants dans les territoires des Luisans en particulier, mais dans la province du Kasaï central en général.
Quels sont les défis que vous avez rencontrés, surtout dans la collecte des données pour les dossiers?
Les défis sont vraiment énormes. Dans nos normes sociales, les gens ont très peur d'aller en justice. Quand les victimes entendaient qu'il fallait aller en justice, c'était difficile à avaler pour eux et pour leur famille. Et ce qui a été difficile également dans la collecte des preuves. Vous avez vu que sur 13 bourreaux, 10 ont été condamnés et 3 ont été acquittés par manque des moyens des preuves. Ils ont peur des représailles, ils ont peur des regards de la communauté. Mais grâce à nos mobilisateurs communautaires, grâce aux leaders communautaires et toutes les autorités locales, qu'on a pu convaincre les victimes et leurs familles de pouvoir aller en justice.
En dehors de cet accompagnement juridique, est-ce que l'ONG Amour Plus a encore accompagné les victimes, un accompagnement psychologique, social et autres?
La prise en charge était holistique. Nous avons renforcé la prise en charge médicale des survivants de violences sexuelles. Au-delà de ça, le projet a un psychologue permanent. Non seulement lui, il y avait également des assistants psychosociaux pour la prise en charge psychosociale et la porte de sortie qui était la réinsertion socio-économique, socio-professionnelle. Parce que une fille qui a été victime de viol, le fait de l'autonomiser, c'est la rendre encore plus forte.
Merveille Sanguilola, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous, Merveille Sanguilola, coordonnatrice générale d'Amour Plus, pour cet éclairage. Son détour sur les audiences foraines de Luisa et le combat mené aux côtés de survivantes. Et merci à André Katendengalamoloumé pour la conduite de cet entretien. Merci d'avoir suivi la grande édition des 18h sur Radio Capi, présentée par Gisèle Cage. Une mise en onde d'Alain Goy. Vous êtes sur Radio Capi, la radio de la paix, votre source d'informations sûres, fiables et vérifiées. Pour approfondir ces sujets, consultez nos reportages et suivre l'évolution de l'actualité. Rendez-vous sur radiocapi.net ainsi que sur toutes nos plateformes numériques et réseaux sociaux. Très bonne soirée à toutes et à tous.